effectivement des souvenirs, mais ça, je veux dire, c'est constant. Hein. Et le problème, c'est qu'il y a une autre régression, la régression désorganisatrice, la régression maligne, et que celle-là, elle ne s'exprime pas forcément dans la cure, elle peut s'exprimer dans des transferts latéraux, dans des manquements au cadre, dans des agirs, et que si on veut tenir compte de toutes ces dimensions, je crois qu'on manque d'une certaine puissance au niveau de la conflictualité. C'est ce que j'ai essayé de soutenir en disant que tout de même, la pulsion de mort et le temps, c'était quelque chose qu'il fallait un petit peu plus réinterroger. Hein. Je l'ai vu, donc, la pulsion de mort, je vous rappelle, comme une, effectivement un antichronos, ça a été dit, hein, un temps à l'inverse du temps psychique, puisque finalement le temps psychique c'est l'inverse du temps des physiciens, je ne l'assimile pas du tout, puisque c'est l'inverse. Hein. Le temps psychique c'est le temps inverse du temps du physicien. Alors voilà, donc je me suis interrogé sur cela. Est-ce pour cela que finalement il dit que les analyses interrompues qui engagent des problèmes techniques et contre-transférentiels qui ne concernent pas notre propos Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le au-dehors du lieu de l'analyse est important. Donc, à la fois la mise en latence des séances, l'oubli de la séance, j'avais essayé de comparer ça au processus sommeil-rêve, comme métaphore de la cure et des séances, le rythme de cet oubli de la séance et de reprise de la séance, donc tout ce qui se passe en dehors de la séance est quand même très important. Tout ne se passe pas dans la séance comme les analystes auraient peut-être trop plaisir à le penser. Bon. Donc, cette dialectique-là me semble déboucher sur une mise en évidence plus importante du négatif, du conflit. Et effectivement, si on ne comprend pas cela, on ne peut pas s'expliquer les analyses qui s'interrompent, ou les analyses qui s'interrompent tout en restant dans le cadre de l'analyse, c'est-à-dire les analyses interminables. Parce que, là encore, problème de temporalité très important, les analyses interminables. Alors, évidemment, je reviendrai au début de son propos où il nous parle de cette insistance sur l'intemporalité, voire, finalement, l'immortalité. Il nous dit « Longtemps, ô Dieu seul, les hommes ont accordé ce don d'intemporalité. » Je crains, moi, et je l'ai dit d'ailleurs dans mon texte, qu'on aurait une certaine tendance, finalement, à diviniser l'inconscient, voire l'activité du psychanalyste, en pensant que ce serait quelque chose qui serait hors temps, tout entier, et là il y a peut-être un danger. J'aurais bien entendu d'autres choses à dire, je ne sais pas, je les dirai peut-être tout à l'heure. Il y a des petits points de détail comme la mort serait un progrès, dont il parle à un moment dans son rapport, que comme si c'était une acquisition de la substance vivante, la mort. Alors là, j'ai pas très bien compris, d'autant que Freud récuse cette idée de Weismann, hein, donc dans Au-delà du principe de plaisir. Voilà, l'héritage freudien, qu'en avez-vous fait? Mais moi, je trouve tout de même que l'héritage freudien de la pulsion de mort, du surmoi et idéal du moi, dont il n'a pas beaucoup parlé non plus, qu'en a-t-il fait aussi? D'une génération à l'autre, nous dit-il, l'enfant et les parents se transmettent l'intemporalité. Oui, ils se transmettent l'intemporalité de l'inconscient, c'est vrai, mais parfois ils se transmettent, moi, ce que j'ai essayé d'appeler du temps à l'envers, c'est-à-dire du temps qui désorganise, des fantômes qui détruisent la psyché de l'autre. Évidemment, là, on n'est plus dans la névrose classique, on n'est plus dans la représentation qui s'élabore d'elle-même. Voilà, un petit peu la dissonance que j'aurais aimé introduire dans la résonance que j'ai par ailleurs, bien entendu, avec ce très beau rapport, très séduisant, mais qui peut-être justement par sa séduction nous fait oublier certaines dissonances.
Merci beaucoup. Je voudrais moi-même dire quelque chose comme commentaire des relations que nous avons entendues. Je suis resté admiré par la capacité des deux relateurs, je dirais, hier et aujourd'hui, de construire la temporalité psychanalytique au moyen de l'expérience du temps, de construire la temporalité psychanalytique en se référant au texte métapsychologique et à les métaphores de la métapsychologie. J'aurais voulu entendre une discussion plus détaillée sur la métaphore archéologique, qui est la grande métaphore que dans la conception de Freud, dans toute sa œuvre, contient la manière de concevoir le temps en référence à sa spatialisation. Et il y a une autre, il n'y a pas de doute que le thème c'est très complexe et la complexité peut s'accroître si nous cherchons de construire la temporalité psychanalytique au moyen d'une adhérence à l'expérience du temps dans la clinique, dans une manière plus directe. Le temps de la perlaboration, le temps pour conclure et décider, l'hésitation et le temps de l'interprétation, le temps du cadre clinique, le temps du besoin, de la séparation, etc. Je voudrais dire quelque chose de le lien métonymique qui a été remarqué du temps avec la mort. Et je voudrais paraphraser Charcot en rappelant ça. La mort, c'est bon, mais cela n'empêche pas la vie, à la vie d'exister, au moins pour maintenant. Et encore, rappeler un mot de Nachman de Bratislava qui disait que c'est vrai que nous sommes poudre et nous reviendrons à la poudre, mais cela n'empêche que nous pouvons boire du bon vin dans l'intervalle. Merci. Je donne la parole à Olivier Flournoy. Il y a 6 personnes qui doivent parler.
Je serai bref, car je pense que vous avez tous faim et que beaucoup de gens veulent encore parler. Et je vais continuer dans les propos de notre président en vous proposant une métaphore alimentaire. J'ai eu beaucoup d'intérêt à écouter nos deux rapporteurs et comme vous tous, ça m'a fait le plus grand plaisir. Mais je dois dire que pour Jean-Claude Roland, là, il y a un petit plus que j'aimerais souligner et il faut bien le dire, j'ose le dire, le mot, j'ai trouvé que le rapport de Jean-Claude Roland était, en plus de l'intérêt qu'il nous proposait, était émouvant. Et émouvant pourquoi ? Parce que il me parlait directement de ces affres passionnantes que l'on vit tous les jours avec nos patients. Et les irritations et les reproches qu'on a entendus hier adressés à nos rapporteurs, eh bien, finalement, je crois que je ne peux les adresser qu'à moi devant les difficultés que j'éprouve à saisir ce thème de la temporalité à la fois si complexe selon les uns et si simple selon les autres. Kant, pour ne citer que Kant, a dit une fois qu'on ne saurait demander au temps de défaire son œuvre et on recourt à ce moment-là à la causalité. Et les questions que pose Freud sont bien celles-là. Pourquoi l'inconscient est-il « zeitlos » ? Pourquoi l'inconscient est-il hors du temps ? Là, c'est une caractéristique tout à fait négative que Freud donne à l'inconscient. Il est « zeitlos ». Mais le triangle est aussi « zeitlos » selon Euclide, même si nous le déformons. Et pourtant, c'est bien ça que Freud veut dire, l'inconscient n'est pas concerné par le temps. Et pourquoi a-t-on parlé aussi si peu de la durée ? La durée, c'est quand même fondamental dans le temps. Et enfin, pourquoi cette alternance, pour ne pas dire cette confusion, entre d'une part l'intemporalité de l'inconscient et d'autre part, est l'apostrophe atemporalité de l'inconscient ? Alors qu'il me semble que la scène primitive, d'une part, qui marque les débuts de nos investigations, et la pulsion de mort, d'autre part, qui en marque la fin, nous indique clairement que la durée de l'inconscient, il faut bien l'appeler comme ça, est strictement superposable à celle de la vie vue sous l'angle de la métapsychologie et sous l'angle de l'expérience psychanalytique. Je vous propose maintenant une métaphore triviale et spatiale qui serait, à propos de l'inconscient, que l'inconscient serait une armoire fourre-tout du passé. L'armoire serait un système et ce qu'on y fourre, ce serait la qualité, comme Jacques Presse nous a montré le passage d'un inconscient systémique à un inconscient qualitatif. Et ce qu'on y fourre, ce sont des denrées plus ou moins rapidement périssables. Mais dans cette armoire, il y a un compartiment de surgelé. Et ce compartiment de surgelé contient des choses bien particulières qu'on va dégeler au micro-ondes de la psychanalyse. On en sort effectivement des produits tout à fait frais qui n'ont pas subi l'outrage du temps. Ils sont à la fois actuels et en même temps vieux de 10, de 20 ans, simultanément. C'est quand même très bizarre cette histoire. Et pourtant, c'est tout à fait parlant. Et ce qui est curieux, en fait, ce n'est pas curieux, mais ce que nous faisons, le psychanalyste, c'est qu'il recherche systématiquement le vieux. Il ne s'intéresse pas aux frais. Il recherche la répétition. Pourquoi ? Avec cette idée, non pas qu'il refuse la fraîcheur, mais qu'à force de rechercher le vieux, la fraîcheur surgira, comme par miracle, et il arrive effectivement parfois qu'elle surgit dans nos analyses. Mais où placer cette armoire et son contenu ? Cet inconscient primaire, on pourrait dire, et cet inconscient secondaire. Et je pense qu'il faut chercher où ? C'est en arrière, dans le temps. Et là, je dirais deux mots sur l'ontogénèse que André Green redoute, car l'ontogénèse, comme je la conçois, a ceci d'intéressant, qu'elle nous confronte à deux zones d'obscurité absolue qui se recouvrent et qui s'épaississent réciproquement. Deux personnes inconnues font des choses absolument impensables. À la suite de cela, il y a une période intemporelle, indéfinie, infinie, d'obscurité totale dans tous les sens du mot. L'observateur extérieur dira que cette période intemporelle dure 9 mois. Puis à la naissance, l'enfant paraît et survient avec cette particularité qu'il a perdu à tout jamais le sexe qu'il n'a pas. Alors qu'il avait les deux sexes au début. Et cette perte du sexe qu'il n'a pas, voilà une place pour mon armoire. C'est le sexe que j'ai perdu. Et ensuite, l'enfant, enthousiaste devant cette énigme de ce sexe qu'il n'a pas et qu'il découvre chez les autres, s'y attelle et s'épuise en vain à tenter de découvrir la solution, jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que l'amnésie infantile recouvre le tout d'une seconde zone d'obscurité tout aussi impénétrable et qui vient se superposer à la première. On sait pourquoi, ou on croit savoir pourquoi, il y a cette seconde zone d'obscurité. C'est l'Œdipe. C'est l'Œdipe et sa menace. Et pourtant, moi qui vous parle, je continue à faire des rêves œdipiens, et je continue à désirer ce sexe que j'ai perdu à jamais. Et si je le sais, j'ai tout de même encore et toujours de la peine à imaginer que ce père et cette mère, en l'occurrence un père qui a mon sexe et une mère qui n'a pas le mien, aient été une fois ces deux inconnus qui faisaient des choses absolument scandaleuses et impensables. L'énigme de l'intemporalité, de l'inconscient, demeure à ce moment-là absolument épaisse, entière, redoublée par ces deux pans d'obscurité qui se superposent. C'est une énigme et non une devinette, comme Nicolaïdis me l'a rappelé, Effectivement, l'énigme ne se résout pas, la devinette se résout. Je dirais que la sphinge, pour les hommes, ou le sphinx pour les femmes, pose l'énigme. En la résolvant, Édipe croit sauver Thèbes de la peste. En fait, il ne fait que tomber sur une énigme plus obscure encore, celle d'Édipe, et de cette obscurité redoublée de ses origines. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, je pense que c'est essentiellement de pouvoir la dire au lieu de vouloir à tout prix la résoudre. Je crois que pour la psychanalyse, tout est là. Et pour terminer, je vais convoquer ces démons dont Jean-Claude Roland nous a rappelé l'existence quand Freud en parlait, avec une ultime fantaisie concernant mon armoire. L'obscurité intemporelle que recouvre la perte du sexe qu'on n'a pas n'est pas superposable à l'obscurité que recouvre la perte de nos années d'enfance. Il ne s'agit pas de la même chose. Ça n'est pas de la même nature. Ce sont deux obscurités différentes, comme on sait. Peut-être l'obscurité primaire serait celle de la perte du sexe qu'on n'a pas. Et la seconde, eh bien, c'est l'obscurité secondaire. La palisse n'aurait pas dit mieux. Et voici l'image que je voulais vous dire pour terminer. Pour en revenir à mon armoire, on peut très bien imaginer un embryon surgelé. Nos enfants, ils n'imaginent pas, ils trouvent que c'est évident, ça se passe tous les jours, c'est une histoire comme ça. On peut très bien imaginer un embryon surgelé il y a 100 ans ou il y a 1000 ans. Et il me semble que les deux sujets qui en seront nés nous poseront, à nous analystes, exactement le même problème. Ils auront chacun perdu le sexe qu'ils n'auront pas eu. Par contre, si l'on surgèle un enfant à l'époque de son amnésie infantile, pendant 100 ans ou pendant 1000 ans, le psychanalyste qui aura la chance d'analyser plus tard ses enfants, quand on les aura dégelés, se trouvera confronté à des problèmes beaucoup plus complexes. Notamment, il ne pourra jamais être sûr que lui-même n'a pas été autrefois surgelé aussi. Je vous remercie.
La parole à Bernard Chervet.
Dans l'alimentaire, tant pis. Bon, mon intervention se veut porter plus particulièrement, et c'est pas seulement un problème de mots, qu'on peut très bien, c'est plutôt ce que désignent ces mots, une différence désignée par une différence de mots qui m'apparaît importante. Donc mon intervention va porter sur l'atemporel, l'apostrophe, atemporel, dans sa différence avec l'intemporalité de l'inconscient, telle que Freud l'a définie en 1900-1915, puis maintenue à juste titre jusqu'à la fin de son œuvre. Toutefois, l'introduction de « Au-delà du principe de plaisir », non localisé topiquement, l'au-delà du principe de plaisir n'est pas localisé topiquement, Freud ouvre le « ça » sur le somatique. Non localisé topiquement amène à envisager l'intemporalité comme étroitement liée à la temporalité dans un processus oscillatoire, régrédient-progrédient, primaire-secondaire, processus de temporalisation de la psyché, censé ce processus ainsi traiter l'atemporel et l'apostrophe. Je dirais l'atemporel avec l'apostrophe ou intemporalité. Pour qu'on c'est au niveau de qu'il n'y ait pas de confusion dans l'écoute. Ou si l'on préfère, donc, la dimension traumatique responsable de cette oscillation discontinue et de notre sensation endopsychique, le temps s'exprime à l'intérieur de nous par une sensation ou par des sensations endopsychiques du temps, ce dont Freud lui-même parle en termes de discontinuité des investissements de la perception conscience. D'autres auteurs ont déjà insisté sur cette différenciation intemporelle-intemporalité. Jean Gilibert lui-même en 1994 à Deauville, Michel Néraud en 78 dans Les logiques de l'inconscient l'aborde d'une façon particulière par le biais du traumatique. Je pense aussi à André Green dans son séminaire de recherche. Je suivrai donc trois points. Premièrement, une observation de séance. Deuxièmement, une déduction liée à la nature de postiche des montres-bracelets que nous portons sur notre corps régulièrement. Troisièmement, une interprétation d'une réalité clinique, le sentiment de perdre son temps et d'être condamné à tuer le temps. Auparavant, je tiens à remercier particulièrement les deux auteurs des deux rapports. François Duparc d'abord, qui grâce à son goût pour Limoges et au représentatif, nous a fait l'accompagner sur les chemins de la régression formelle, chemin de sexualisation certes, à la rencontre de la difficulté à figurer spatialement cette notion abstraite qu'est le temps, figuration pourtant indispensable à l'accomplissement par la voie régrédiente du travail du rêve. Ensuite, Jean-Claude Roland, qui nous a offert ses réflexions jusque-là maintenues intimistes, nous confie-t-il. Il a cherché, quant à lui, à garder constante la référence à la dimension abstraite, strictement désexualisée, morte au sexuel, qui spécifie le temps, d'où la place privilégiée qu'il accorde à la langue et, en tant que code, le temps a en effet ses codes chiffrés dans la langue, et au travail psychique processuel qui s'opère pendant les séances, la pertinence de son insistance sur la répétition. Les séances se répètent plus qu'elles ne se suivent, l'amène à envisager une compulsion de représentation. Ne penses-tu pas, Jean-Claude, que la métapsychologie freudienne nous permet de penser la compulsion de répétition comme étant une solution palliative à un manque, le manque de surinvestissement, comme l'appelle Freud dès 1915, bien avant qu'il ait mis en place l'instance surmoi, qui, donc, après la mise en place de l'instance surmoi, sera donc l'investissement sur, typique de l'investissement du surmoi. Il y a compulsion de répétition là où un processus n'est pas efficient, processus pouvant certes utiliser les représentations pour réaliser son travail, mais dont l'efficience n'est pas inhérente au représentatif. D'où toute une réflexion sur l'abstraction pourrait s'en suivre. Pour étayer ce propos, je vais justement suivre l'exemple des deux rapporteurs en me centrant sur les séances d'analyse encore plus concrètement qu'ils ne l'ont fait. Les trois points annoncés ont déjà été en partie traités par moi-même dans un article que j'ai produit, ça c'est la petite histoire, que j'ai produit suite au colloque de Deauville de 1994 et que, ayant été, je l'ai remis en retard à la Revue française de psychanalyse, il s'est trouvé donc pré-publié en avance sur le congrès. C'est pour cela qu'il n'était pas dans les pré-publiés. Le contretemps, mon contretemps, comme réalisation d'un désir d'ubiquité temporelle. Cet article intitulé « Tempus fugile carpe diem » traitait du temps, de ses tempos et de sa mesure. Et pour cela, je partais d'observations de séances. Et à propos de cet article, j'ai eu des échanges avec Jean Cournu, avec Michel Fin et avec André Green. En effet, la séance d'analyse s'inaugure idéalement par un acte psychique précis portant sur la temporalité et définissant la dissymétrie analysant-analyste. L'analysant est, en se laissant aller à la libre association, accepte de laisser sa montre au vestiaire, alors que l'analyste, quant à lui, est censé, au contraire, s'être prémuni de quelque instrument de mesure du temps, un garde-temps, comme on les appelle en Suisse. 5 interventions dans les prépubliés viennent de Genève. La vallée de Joux n'est pas loin de Genève. Un garde-temps en état de marche. L'acte psychique dont il est question est la mise en latence, acte qui précède toute régression formelle et qui ouvre un cycle dynamique se réalisant au contact de l'intemporalité des désirs inconscients, le cycle de la latence. tout retour de la temporalité en cours de séance est un acte de prématurité, difficulté qui signe une difficulté actuelle, difficulté qui peut être traitée par l'utilisation du chronologique, par le coup d'œil plus ou moins furtif du patient à sa montre, par le questionnement adressé directement à l'analyste, par les avances aussi, les retards du début de séance, de fin de séance, voire même les départs précipités, prématurés de fin de séance. Cette difficulté à ne pouvoir associer régressivement dans l'intemporalité révèle des aspirations traumatiques sous-jacentes, sises au-delà du principe de plaisir et par là atemporelles, empêchant le processus de temporalisation, sous-tendant la contrainte associative, la compulsion de représentation dont nous parle Jean-Claude Roland. La libre association est alors dominée par les nécessités de maîtrise, voire de calmance, comme l'ont dit plus récemment un certain nombre de mes collègues de l'IPSO. Cette difficulté de régression temporelle trouve bien sûr son apogée au sein des rêves eux-mêmes et plus particulièrement dans tous les avatars du rêve typique numéro 2, rêve de mort de personne aimée, typique de la temporalisation. En effet, typique de la temporalisation par son affect, par l'affect spécifique de la temporalisation qu'il introduit dans un rêve, l'affect de douleur morale, en tant qu'indice de cette temporalisation en cours. En effet, ce rêve, jugé par Freud comme offrant de particulières difficultés à l'interprétation, puisqu'il met en scène un événement déplaisant, réalise en fait le désir d'être soi-même bien en vie, les chaudes larmes. Cette réalisation d'un désir intemporel et d'intemporalité se fait grâce et dans une ambiance de proximité retrouvée avec l'objet perdu. Ambiance aussi de séance. Toutefois, le travail du rêve chope fréquemment. Ainsi, par exemple, ce patient qui, après le décès d'un proche, rêve qu'il pleure abondamment en pensant à ce disparu dans son rêve, puis tout à coup dans le rêve se met à hurler et à crier dans son rêve. Ce rêve vient confirmer l'extrême clairvoyance de Jacques Lacan, qui, redoutable dénicheur de l'heure, ne s'est pas trompé en interprétant ses retrouvailles elle-même comme étant en fait un contact ignoré par le rêveur avec des morts, et par ce biais avec ce que Freud a appelé dans l'avenir d'une illusion le pressentiment du sujet de sa propre mort, où l'on perçoit mieux que l'intemporalité n'est pas un état, mais nécessite d'être installé et réactivé régulièrement, eu égard à la tendance à l'atemporel. Ce phénomène se retrouve très nettement dans la clinique. Par exemple, ce patient qui, après le suicide de son père, suicide dont il parlera, dont il dira il ne l'a pas vu venir, que lui ne l'a pas vu venir, le suicide de son père, a organisé toute sa vie selon des échéances temporelles, en fonction desquelles il pourra alors seulement se laisser emporter et suivre son père, échéance donc de survie. Ma deuxième remarque, observation de séance, vient permettre d'autres déductions. Il s'agit de la nécessité dans laquelle se trouve l'analyste d'avoir à sa proximité un garde-temps, à moins que d'être lacanien, c'est-à-dire de se penser maître du temps, c'est-à-dire non soumis aux moires, alors que les Grecs ont placé ces derniers au-dessus même, comme l'a rappelé Marilia, de leurs dieux immortels. Cette nécessité se retrouve aussi dans la vie quotidienne et tout particulièrement la nuit, puisqu'à la façon d'Alfred Jarry, nous pourrions dire que l'homme est fait pour avoir une chambre à coucher, celle-ci pour avoir un lit, le lit pour avoir une taupe de nuit, la taupe de nuit pour mettre un réveil. Cette valeur de postiche qu'ont les instruments de mesure du temps, Jean-Claude Roland l'a effleurée à la page 183 de son texte, page qui se termine par une citation du bloc-notes magique et qui rappelle celle de citation de 1916, l'introduction, l'entrée, les premières phrases du complément, puis un autre passage de l'abrégé dans le chapitre 8, les trois citations de Freud renvoient tous à des appareils que l'homme se crée pour pallier ses défauts acquis ou pour accroître ses capacités. Sigmund Freud nous dit que tous ces instruments sont construits sur le modèle du fonctionnement de certains de nos organes sensoriels. Toutefois, sans rentrer ici dans le détail, les garde-temps se trouvent être à la charnière du fétiche et du postiche. Ce sont des pastiches de postiche, dans la mesure où leur modèle est celui des processus à la base de la temporalisation, processus oscillatoire et incertain, alors que ces instruments montrent, eux, une temporalité uniquement tournée vers l'avenir progrédiente qui va de l'avant en marche. Ils ont fonction de détourner l'attention des humains de ce qu'ont à traiter ces processus, les aspirations régressives non visibles, entendables, les montres montrent le résultat progrédient de ce travail processuel, travail s'accompagnant lui d'un à-rebours de notre potentiel d'éros. Ce faisant, elles nous proposent, les montres, par renversement, une temporalité intemporelle, ouverte sur l'avenir à un détail près, qu'une source énergétique soit toujours là pour les alimenter. Ceci permet de déduire qu'il n'y a pas, trois déductions et je m'arrête, oui, qu'il n'y a pas de représentation du temps. Ce défaut de contre-investissement représentatif s'accompagne d'une obligation de travail psychique processuel spécifique, anti-traumatique, et qui, en étant producteur de libido sexuel, n'en est pas moins un à-rebours du potentiel d'éros. Enfin, je laisserai mon interprétation.